Bonjour tout le monde, Marjorie Théodore au micro. Aujourd'hui, nous parlons du sujet de mère au foyer. Nous allons apporter un peu de lumière sur le choix de rester au foyer ou retourner travailler. Les mères sont peu à faire le choix d'abandonner un emploi pour rester auprès de leurs enfants en bas âge. Les services de garde au Québec sont parmi les plus avantageux au monde. Toutefois, une majorité de mères retournées au travail après leur congé de maternité est un choix difficile. En plus, socialement, de nos jours, les mères au foyer suscitent de l'étonnement, c'est pas valorisé. Or, nombre de mères qui font le choix de rester à la maison y trouvent un cadre d'épanouissement, mais leur choix est rarement dépourvu de tiraillements. En première partie d'émission, je reçois Émilie Girard, infirmière et enseignante au collège, et en deuxième partie, Annie Cloutier, sociologue de la famille et enseignante au cégep Garneau. Ma première invitée, Émilie Girard, est mère de deux garçons, 3 ans et 1 an. Elle n'est pas retournée travailler depuis la naissance du premier et compte étirer son congé non rémunéré le plus possible. Son dilemme, si elle ne retourne pas au travail en 2022, elle perd sa licence de pratique, ce qui l'obligerait, au moment où elle voudrait retourner au milieu en milieu hospitalier, à faire une mise à niveau. En plus, sa profession d'infirmière est particulièrement en demande en cette époque, comme on le sait, ce qui exacerbe son tiraillement entre rester auprès de ses enfants ou retourner travailler. Bonjour, Madame Girard. Bienvenue à Vivement les femmes.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Ah, je suis très heureuse que vous ayez accepté de venir témoigner de votre expérience, surtout sur un sujet qui ne fait pas toujours l'unanimité. Donc, on apprécie fortement. Alors, Madame Girard, pouvez-vous me dire quelle est votre situation familiale actuellement?
Donc, c'est ça, je suis maman à la maison. Mon dernier congé de maternité vient de se terminer, mais j'ai décidé de le prolonger là, sans solde le plus possible. Et mon conjoint est avec moi à la maison. On a nos deux garçons là, de 3 ans et 1 an avec nous.
OK. Lorsque votre aîné, à la naissance de votre aîné, quelle était à ce moment-là la situation professionnelle?
À ce moment-là, je suis infirmière clinicienne. J'ai étudié 3 ans au cégep, puis ensuite j'ai fait un bac de 2 ans. Et j'ai travaillé longtemps quand même en milieu CLSC, j'ai travaillé même dans le Grand Nord et après j'ai été enseignante, c'est au collège, donc j'enseigne aux futures infirmières. C'est ça que je faisais depuis les 4 dernières années avant la naissance de mon garçon. Et puis quand mon garçon est né, ça a été pour moi un peu, j'avais pas nécessairement imaginé ça, de m'arrêter longtemps parce que je m'accomplissais beaucoup dans mon travail. Mais ça a été comme une transformation pour moi de devenir maman, puis j'ai vraiment vu que je pouvais m'épanouir de cette façon-là.
Ah non, j'en doute pas. Puis qu'est-ce que ça vous apporte d'être mère au foyer?
Ça apporte beaucoup de choses. On valorise beaucoup les valeurs familiales à la maison. Puis pour moi, je trouve ça très gratifiant d'être présente pour mes garçons, puis d'être témoin à tous les jours de leur développement cognitif, affectif, social et tout ça, de pouvoir les voir grandir, puis de savoir aussi qu'on crée un lien d'attachement solide, il y a un grand lien de confiance qui s'établit entre nous. Ça, c'est très, très fort pour moi. Aussi, de voir même avec la fratrie, justement, de voir les témoins des deux frères, comment ils peuvent développer quelque chose, un lien unique, je trouve, du fait de se côtoyer comme ça vraiment à tous les jours et pas d'être chacun dans leur groupe de garderie, là, si on veut. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important pour moi. Puis je trouve du bonheur dans les petites choses simples de la vie. Des fois, on dirait que quand on est pris un peu dans la routine métro, boulot, dodo, on prend moins le temps d'apprécier les choses plus simples. Fait que toutes les activités qu'on peut faire aussi simples que de faire notre pain ou cultiver notre potager, jouer ensemble, puis s'émerveiller, juste ça, pour moi, ça m'apporte un grand bonheur. Ouais.
En effet, ça, c'est très gratifiant. Et puis, dans ça, qu'est-ce que vous diriez qui est moins... c'est très gratifiant ce que vous nous dites, mais quelles ont été les difficultés? Qu'est-ce que vous pourriez nommer comme difficulté en étant mère au foyer?
Oui, ben les difficultés, c'est certain qu'il y en a. C'est pas rose tous les jours. Il y a des journées qu'on remet tout ça en question.
Oui.
Des fois, il y a des journées que ça fonctionne un peu moins bien avec les enfants quand ils sont fatigués, par exemple. Mais les plus gros défis, c'est d'arriver à trouver l'équilibre. Je pense c'est certain qu'on a peut-être un... Si on veut avoir du social, ben c'est pas par le travail que ça se fait. Donc, il faut un peu travailler pour rencontrer d'autres mamans, par exemple, qui ont des enfants à la maison, des choses comme ça. Fait que ça, c'est un aspect de trouver un peu de temps pour soi aussi. Mais c'est certain quand on a la chance des fois d'avoir des membres de la famille là, qui peuvent nous donner un bon coup de main à côté, ça nous permet d'avoir des petites pauses aussi parce qu'on a besoin de petites pauses mentales de temps en temps pour prendre soin de soi puis pour réaliser d'autres projets. Là, c'est ça. Donc ça, c'est un des défis que je dirais. Pour moi, c'est le principal défi là, d'arriver à trouver cet équilibre-là. Particulièrement en temps de pandémie où c'est plus difficile hein, quand on est confiné et on n'a pas aussi facilement accès à notre réseau autour et tout. Donc, pour moi, c'est le principal défi. Ouais.
Ça ajoute des difficultés. Puis, qu'est-ce que vous diriez au niveau des sacrifices financiers? Est-ce que ça y a fallu en parler avec votre conjoint et puis il y a certains sacrifices financiers?
Bien, c'est certain que c'est un des gros questionnements quand même quand on est privé de salaire pendant une certaine période. C'est quelque chose pour nous qui s'est quand même planifié dans le sens où on a eu nos enfants un petit peu plus tard, dans le début trentaine, alors qu'on n'était pas au début de nos carrières professionnelles. Ça fait qu'on avait réussi à mettre un peu des économies de côté. Donc, on a un certain coussin pour pouvoir se permettre cette latitude-là, là, que je reste à la maison. Mais c'est aussi une question de choix, je pense, puis c'est pas pour tout le monde. Mais nous, par exemple, on a choisi d'avoir une seule voiture. On privilégie des activités qui sont moins onéreuses, là, comme par exemple, on aime beaucoup faire des activités en plein air. Ça coûte pas cher, mais il faut aussi s'adapter. Donc, pour nous, ça convient. Ce rythme de vie-là nous convient bien, mais je suis très consciente que c'est pas tout le monde qui pour qui ça peut bien fonctionner, parce que bon, des fois, il y en a qui doivent absolument retourner pour avoir un salaire, ou parfois, c'est ça, dépendamment du rythme de vie de chacun. Donc, pour nous, ça fonctionne bien comme ça.
OK. Alors, pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, je m'entretiens avec Émilie Girard, infirmière et enseignante au collégial, qui a fait le choix de rester au foyer dès la naissance de son premier enfant. Madame Girard, je vous amène un petit peu vers le regard de l'autre. Quel regard votre entourage pose sur vous, sur cette décision?
C'est sûr que ça pose des questions. Les gens autour, souvent, ils demandent, ben, t'aimerais pas mieux les envoyer à la garderie et tout ça. J'ai entendu toutes sortes de commentaires, là. Un qui revient vraiment souvent, puis pour moi, je trouve ça un peu étonnant, mais c'est, tu es vraiment bonne de faire ça, moi, je serais pas capable. Ça, je l'ai entendu vraiment souvent, puis ça m'étonne un peu parce que je pense pas que c'est une question d'être capable ou non. C'est plus une question de voir si ce mode de vie-là peut nous convenir, puis si on est bien avec ça de le faire. Alors, ça, c'est ça. Donc, il y a quand même toutes sortes de commentaires. C'est pas une décision que la majorité des femmes prend de nos jours. Fait que c'est sûr que tout ce qui est un petit peu hors norme, ben, ça questionne plus.
Oui. Ouais. Puis, est-ce que vous sentez que c'est valorisé être resté au foyer? Oui.
Pas particulièrement, même on entend souvent justement les gens par rapport, on a tellement, comme vous l'avez dit, on a tellement un bon système pour les centres de la petite enfance au Québec et tout. Je pense que dans la société, c'est pas nécessairement organisé pour permettre ce choix-là facilement avec les femmes. Puis dépendamment aussi de notre emploi, c'est pas facile de prendre la décision là, de mettre ça un peu de côté.
Oui.
Donc, je pense pas que c'est valorisé. Par contre, je pense qu'il y a un certain retour quand même vers ça. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes, au moins, qui se posent la question.
Oui.
Je pense parce que, justement, on est beaucoup dans une société de performance. On doit être performante au travail, performante comme maman et tout ça. Puis je pense que c'est difficile de trouver l'équilibre dans tout ça. Puis je pense que ça peut être très, très, très stressant de vouloir bien faire les choses dans toutes les sphères de notre vie.
Oui.
Je pense que moi, ça me permet à tout le moins de me concentrer pour le moment sur un aspect. Donc, je pense que mon stress est réduit par rapport à ça, oui.
Puis, dans un monde idéal, vous resteriez au foyer jusqu'à ce que vos enfants aient quel âge, à peu près?
Dans mon monde idéal, c'est au moins jusqu'à l'entrée scolaire, au moins. Mais c'est certain que là, comme vous l'avez dit, là, je suis en grand questionnement parce que justement, de mon côté, en étant infirmière, puis je le comprends, là, si je veux exercer et être compétente, je dois garder un certain niveau de compétence aussi et rester dans le bain un peu. Alors là, c'est mon tiraillement de devoir aller travailler, particulièrement en temps de pandémie. Là, à chaque fois que le premier ministre demande pour aller donner un coup de main, ça m'interpelle. Puis là, je me demande, est-ce que je fais la bonne chose de rester à la maison? Alors là, Mais c'est ça mon tiraillement actuellement. Là. Ouais.
Alors, un tiraillement qui va se poursuivre jusqu'à ce que vous preniez la décision, je suppose.
Oui, c'est ça.
Donc, Madame Girard, c'est tout le temps que j'avais avec vous. Donc, je vous remercie parce que à travers votre témoignage, on prend un peu l'ampleur aussi d'une telle décision hein, pour une femme de nos jours. Donc, oui. Merci vraiment d'avoir partagé votre quotidien avec nous.
Ben, ça m'a fait plaisir, puis j'espère que si ça peut en inspirer quelques-unes à faire ce choix-là, ben, tant mieux.
Ah, ben merci.
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 C'est moi le lave-vaisselle humain, la petite femme au foyer, celle qu'on appelle maman, pas seulement les enfants. Quand à la fête des mères, on m'offre un aspirateur, je baisse la tête et je pleure. La 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 la. Mon sport de l'après-midi, c'est le rallye caddie. Pas besoin de fitness pour une maman qui se presse. Faut dire que le second veut un nouveau cartable et que le dernier se tient bien à table. La 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 la, vous avez peut-être oublié qu'il y a des porte-jartels sous mon tablier. Un cœur de braise dans la poitrine de la femme au foyer. Emmenez-moi chez Sephora. Je veux des bagues à tous mes doigts, à mes doigts glisser des bijoux. Les gants MAPA ne me disent plus rien du tout. C'est moi qu'on réveille la nuit quand on fait des cauchemars. Quelque chose t'ennuie, tu as mal quelque part. Je suis les bras qui sauvent du petit chagrin, du noir sous le lit, du monstre et du martien. La 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 la. J'ai peur la nuit et que je tremble aussi. C'est dans vos bras, chérie, que je me réfugie. Si je n'avais aucune crainte, je me mettrais en danger. Chercherais des contraintes pour que vous me protégiez. La 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 la, vous avez peut-être oublié qu'il y a des porte-jartels sous mon tablier. Un cœur de braise dans la poitrine de la femme au foyer. Emmenez-moi au septième ciel. Je suis belle et surtout n'oubliez pas les bijoux. Les colliers de pâte ne me plaisent plus du tout. Collier de pâte ne me plaisent plus du tout.
Nous avons écouté Marie Renaud, femme au foyer. Avant la pause, nous avons entendu le témoignage de Mme Girard, infirmière et enseignante, qui a décidé de rester au foyer à la naissance de ses enfants. Alors, je vais poursuivre maintenant avec Annie Cloutier, sociologue de la famille et enseignante au cégep Garneau. Son mémoire de maîtrise « Mère au foyer scolarisé de la classe moyenne », de même que son essai « Aimer, materner, jubiler », édition VLB 2014, fonde-t-elle une sommité au Québec sur le sujet. Elle est, elle-même, restée auprès de ses garçons qui ont maintenant 25 ans et 18 ans, pendant 10 ans avant de retourner aux études. Alors, bonjour Madame Cloutier, bienvenue à Vivement les femmes.
Bonjour à vous, merci de m'avoir invitée.
Merci de nous permettre d'avoir un regard plus éclairé sur le sujet. Donc, je vais poursuivre avec vous. Madame Cloutier, dans votre essai « Aimer, materner, jubiler », déjà, vous avez écrit « À 14 ans, vous répondez dans le cadre d'un cours à la question « Que pensez-vous des mères au foyer ?» Vous répondez « Je suis absolument pour la mère au foyer dans la mesure où cet état résulte d'une décision strictement personnelle. » C'est une occupation comme une autre, et si la femme préfère rester au foyer, eh bien qu'elle le fasse sans avoir peur de passer pour une demeurée. Donc, c'est tout de même une affirmation convaincue pour une femme, une jeune fille de 14 ans. Donc, déjà très jeune, vous aviez vos convictions. Parlez-nous-en.
Oui, en 1987.
Ah, oh, wow, ça fait longtemps.
Oui. Oui.
Alors, donc, vous étiez déjà convaincue que du choix pour les femmes au foyer.
Ben apparemment, donc en fait la question dans les années 80, moi j'ai été vraiment la fille de femmes baby boomer, des femmes qui ont bon ma mère comme les femmes de sa génération, là, les femmes qui ont fait advenir le féminisme au Québec, puis qui ont beaucoup insisté pour que leurs enfants, elles-mêmes et leurs enfants travaillent contre rémunération, en plus d'élever des enfants et qu'elles soient pas seulement femmes au foyer. Donc moi la question m'était posée par des professeurs dans le fond, qui voulait peut-être un peu nous faire dire que, au fond, c'était peut-être mieux de travailler si on voulait être indépendante comme femme, etc. Et moi, je sais pas si j'étais consciente en répondant à ça, là, je n'ai que le devoir devant moi que j'ai conservé toutes ces années-là. Ma réflexion profonde, apparemment, c'était que ça devrait quand même relever d'un choix et que si on voulait être proche de ses enfants, on devrait pouvoir l'être. Donc, je trouve ça vraiment fascinant de penser qu'effectivement, c'est une pensée qui est en moi depuis longtemps. En dépit du contexte, on pourrait dire, où les mères de mes amis travaillaient en fait déjà là, dans la société là, et n'étaient pas à la maison auprès de leurs enfants.
Oui, tout à fait. En début d'émission, vous avez entendu les témoignages de notre invitée, Mme Émilie Girard, ben, qui parlait aussi de cette énorme difficulté là, pour une femme de prendre la décision de rester au foyer, le tiraillement que vit. Qu'est-ce que ça résonne en vous
Ben en fait, d'abord quand j'entends le choix de femmes qui sont plus jeunes que moi, donc de jeunes femmes qui continuent de prendre cette décision-là, ben on est toujours un peu comme ça humainement. Là, on est ravis au fond que on va dire entre guillemets la profession intéresse encore des jeunes mères, qu'il y ait encore des gens dans notre société qui voient l'intérêt d'adopter ce mode de vie-là pour toutes sortes de raisons. Puis les raisons qu'a évoquées Mme Girard, ben je les reconnais beaucoup. Donc moi, il y a déjà une douzaine d'années maintenant, j'ai donc pour faire mon mémoire de maîtrise interrogé une dizaine de mères au foyer qui étaient dans la même situation socio-économique que Mme Girard, c'est-à-dire scolarisée puis en bonne santé financière, qui avaient aussi décidé là, donc d'être à la maison pendant quelques années. Puis leur parcours de vie et leurs histoires, leur raison d'être à la maison ressemblaient encore beaucoup à celle de Mme Girard. Donc, pour se donner une qualité de vie, pour voir grandir ses enfants, pour avoir droit au petit bonheur du quotidien. Souvent, bon, évidemment, moi, je les interrogeais plus longuement là, que dans le cadre d'une entrevue radio. Donc, ce qui ressortait beaucoup aussi, c'était l'idée d'offrir un espace de bien-être à tous les membres de la famille. C'était souvent vu aussi comme un choix qui pouvait aider le couple. C'était peut-être pas la raison première de le faire, qui était plus centrée sur les enfants souvent, mais par la bande, le choix d'être à la maison puis du fait qu'il y ait un conjoint qui est plus détendu, on pourrait dire qu'il est moins dans la course folle, mais ça donnait du temps, de l'énergie, de la lumière à tous les membres de la famille. Il y avait beaucoup aussi de considérations, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes. Il y a des considérations environnementales, sociales qui sont là-dedans. Puis je le voyais peut-être un petit peu là, dans le témoignage de Mme Girard qui a pas eu le temps de développer, mais quand on dit de faire son jardin, par exemple, c'est des choses qu'on peut pas nécessairement faire quand on travaille tout le temps. Donc, être à la maison pour certaines personnes, ça va être une façon donc justement là, d'être actif sur le plan environnemental, soit en jardinant ou en se déplaçant avec des moyens qui sont plus lents, par exemple à pied ou en vélo ou en transport en commun. Ça va être une possibilité aussi de faire du bénévolat ou de s'impliquer politiquement pour des enjeux qui concernent notre quartier, par exemple, toutes les choses qui sont beaucoup plus difficiles à faire quand on concilie le travail rémunéré et famille.
Ah oui. Puis dans votre livre, vous avez parlé du séjour en Allemagne dans une famille où la mère avait fait le choix de rester au foyer. Et puis vous dites aussi également que cela a eu un impact sur votre propre choix. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Parce que vous l'avez vécu, oui.
Oui, ben donc quand j'avais 15-16 ans, j'ai fait un échange étudiant en Allemagne et j'ai donc été accueillie dans une famille dont la mère était effectivement à la maison. Elle était professeure de flûte traversière et elle donnait des cours privés à la maison. Mais disons que quand je rentrais de l'école, du secondaire, là, donc j'étais en secondaire 5 là-bas, elle nous accueillait l'après-midi avec le thé. Donc c'est très nord-européen là, comme façon de faire, avec des petits biscuits. Puis elle nous questionnait, là, ma sœur d'accueil et moi, sur la journée qu'on avait passé. Et moi, j'avais pas du tout connu ça. Là. Depuis que je suis née, ma mère travaillait à l'extérieur. Puis, longtemps, j'ai eu une gardienne à la maison. Puis plus tard, je rentrais, là, on appelait ça à l'époque les enfants avec la clé autour du cou. Donc, il n'y avait pas encore de service de garde à l'école. Puis on rentrait de la maison, là, on s'organisait comme on pouvait, ma sœur et moi. Et donc, ça m'a beaucoup, beaucoup... impressionnée, je crois, impressionnée. Puis je pense que j'ai gardé beaucoup ce modèle-là en tête, un peu à mon insu, sans m'en rendre compte, jusqu'au moment où j'ai eu des enfants qui étaient finalement pas beaucoup plus tard, puisque j'ai eu mes enfants dans la vingtaine, donc quelques années plus tard. Puis ça s'est adonné aussi que mon conjoint est lui aussi nord-européen, donc néerlandais. Okay. Et donc à cette époque-là, j'ai habité dans son pays à lui, aux Pays-Bas. Et le même mode de vie est adopté par plusieurs femmes autour de moi, donc mes belles-sœurs, mes voisines, plusieurs personnes, plusieurs femmes là-bas dans ces années-là, là, la fin des années 90, travaillaient. Mais travailler à semi-temps plein, par exemple, une vingtaine d'heures par semaine. Mmh. Puis le mot d'ordre, là, nationalement, ça semblait vraiment être là, de travailler, mais de quand même être beaucoup à la maison, un peu pour les mêmes raisons que les mères font le choix ici d'être à la maison, là, c'est-à-dire donner plus de temps à l'ensemble de la famille, donner une certaine qualité de vie, avoir du temps pour faire des activités avec les enfants, etc.
Mm-hmm. Puis est-ce que au Québec, est-ce qu'on a une idée là, de la proportion des femmes qui font le choix de rester au foyer?
Oui, donc ça semble, on a une vague idée, je dirais, parce que c'est un sujet qui non seulement est assez tabou dans les milieux universitaires, mais qui est aussi vraiment très mal étudié. Donc, a priori, ça semble être assez stable depuis quelques décennies. Là, ça tourne autour de 80% de mères qui travaillent, donc environ, je dirais, là, pour dire un chiffre conservateur, parce que je suis pas certaine des dernières données, parce qu'il y en a très peu, je dirais entre 15 et 20% des mères qui ont des jeunes enfants là, en bas âge sont à la maison. Puis dans ce chiffre-là, il y a une certaine représentation de certaines femmes immigrantes, toutes, bien entendu, puis il y a une certaine représentation aussi de certaines mères adolescentes, donc très jeunes. Mais c'est pas la majorité, là, étant donné qu'il y a beaucoup de mères de la classe moyenne dans la société, mais puis de classe moyenne non immigrante, bien, elles sont aussi, bien sûr, là, fortement représentées dans ce pourcentage-là.
Est-ce que vous diriez que, selon certaines cultures, c'est mieux vu que d'autres?
Absolument. Donc, c'est pas pour rien. Donc, justement, disons, chez les femmes immigrantes, si on prenait la proportion de mères au foyer, on aurait un chiffre beaucoup plus haut que 15 à 20 mais dans l'ensemble de la population, là, ça se reflète pas tant que ça. Puis évidemment, il faut nuancer beaucoup. Là, on veut pas du tout tomber dans les stéréotypes non plus. Chez les femmes immigrantes au Québec, il y a aussi beaucoup de femmes qui désirent, qui souhaitent vraiment travailler contre rémunération, puis qui le font aussi. Mais il n'empêche que souvent, dans plusieurs cultures, en tout cas de pays d'origine, l'occupation va être plus valorisée. On pense tout de suite aux pays maghrébins, par exemple. Il y a beaucoup de femmes immigrantes ici qui viennent là, du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, etc. Mm-hmm. Mais on oublie parfois aussi que dans plusieurs pays européens, donc occidentaux, c'est beaucoup aussi plus valorisé. Je l'ai mal exprimé, là, donc pas beaucoup plus, mais souvent un peu plus valorisé qu'ici. Donc, notamment dans les pays que j'ai évoqués, là, en Allemagne, en France aussi, dans les pays du sud de l'Europe, un peu partout en Europe finalement, puis même aux États-Unis, qu'il ne faudrait pas oublier, où la question est beaucoup plus divisée, puis il y a peut-être grosso modo, la moitié des mères d'enfants en bas âge qui restent à la maison et l'autre moitié qui travaillent contre rémunération. Donc, c'est beaucoup beaucoup plus égale, on va dire, en termes de représentation là, qu'ici au Québec.
OK. Puis, il y a aussi toujours l'aspect financier là, qui vient aussi dans la balance. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à une femme qui doit prendre cette décision et puis qui a, qui a l'aspect financier qui joue entre le couple aussi?
Absolument. Donc, ben, étonnamment, ce que la recherche montre, puis là, je me base beaucoup sur les recherches d'Hélène Bélot, qui est une sociologue québécoise, c'est que les gens, au fond, ne pensent pas tant que ça à la question financière et hésitent à en parler avec, je vais dire, leur conjoint, mais ça pourrait bien sûr être une conjointe aussi. Les gens ont beaucoup de difficultés à évoquer franchement ces questions-là, à poser la question qui tue. Donc, par exemple, bon, on va avoir un enfant maintenant. Moi, je souhaiterais être à la maison, donc mettre mon travail sur pause et avoir moins de revenus. Est-ce que tu consens à en faire plus pour le budget familial ou est-ce que tu consens à m'en donner, à moi, en mettre plus dans des REER communs, par exemple, pour que j'y ai pas de manque à gagner, étant donné que je prends une décision qui peut être bénéfique pour l'ensemble de la famille. Donc, c'est vraiment une question que les gens ont beaucoup de difficultés à aborder parce que l'argent, c'est souvent perçu un peu comme le contraire ou en opposition au sentiment amoureux. Donc, les gens craignent en général que si on parle de questions financières, ça veut dire qu'on s'aime moins. Donc, ce que je voudrais dire aux gens qui envisagent cette question-là, c'est d'essayer de vaincre cette peur-là ou ce tabou-là parce qu'au contraire, je pense qu'être capable de parler de ces questions-là, c'est un signe, c'est une façon de renforcer sa relation, de l'amener plus loin, de réfléchir à ce qu'on essaie de construire ensemble. Et par ailleurs, c'est tout à fait indispensable là, pour faire ce choix-là sans être pénalisé au bout du compte si jamais il y avait séparation. Il faut vraiment être en sécurité financière. Il faut qu'il y ait des choses qui soient mises là, par écrit. Donc, ce qui est possible au Québec, bien, d'abord, si vous êtes marié, vous êtes protégé de facto. Mais si vous ne l'êtes pas, ce qui arrive quand même très souvent, là, la plupart des enfants au Québec vivent viennent au monde hors mariage. Si vous n'êtes pas marié, prenez le temps de faire un contrat d'union de fait avec votre conjointe ou votre conjoint pour vraiment là, établir sur papier que, advenant de séparation, vous aurez droit peut-être à, bon, là, c'est à négocier avec votre conjointe ou votre conjoint, mais vous aurez droit à un certain montant ou, bon, ça peut être négocié de toutes sortes de façons, là. Oui. Ça pourrait être, par exemple, si je prends le cas de Mme Girard, dont je connais pas du tout la situation, mais par exemple, ça pourrait être de dire, bon, maintenant, je retourne pas travailler, donc je perds mes qualifications en tant qu'infirmière, mais si jamais on se séparait, tu me soutiendrais financièrement Madame... le temps que je retourne chercher voilà. mes qualifications.
Madame Cloutier, nous allons juste faire une petite pause, puis nous allons revenir là-dessus.
Vous écoutez Vivement les femmes, avec Marjorie Théodore.
Je poursuis avec Mme Cloutier, sociologue de la famille et enseignante au Cégep Garneau. Mme Cloutier, nous nous sommes laissés un peu sur l'aspect financier. Il y avait une petite pause. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez ajouter?
Non, vraiment, je voulais simplement insister, donc, pour les femmes que, encore une fois, la profession, entre guillemets, attire, de justement prendre le temps de bien coucher sur papier l'entente financière qui va les lier avec leur conjointe ou leur conjoint au cas où il y aurait une séparation qui surviendrait là, à l'avenir, pour pas qu'elles se retrouvent là, avec, très désavantagées sur le plan financier parce qu'elles ont fait le choix d'être à la maison puis donc de gagner moins de revenus.
Oui. D'accord, merci beaucoup. Donc, dans votre livre, on voit qu'il est beaucoup question aussi d'égalité, puis vous vous dites vous-même féministe, mais il semble que le féminisme parle rarement maintenant, là, sinon jamais, de la mère au foyer. Pourquoi, selon vous?
Ben, à mes yeux, c'est vraiment le tabou ultime. Donc, je répète souvent que au sein du féminisme, il y a des questions très controversées telles que le port du voile ou le travail du sexe qui déchirent le féminisme, mais au moins on en parle. Donc, il y a des positions très campées, mais au moins c'est discuté à l'intérieur du féminisme, alors que le fait de ne pas gagner son propre salaire, ça c'est vraiment, vraiment au Québec. Je le répète, là, aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça, le tabou là, ultime. Je pense que la raison pour laquelle on l'évoque peu, c'est d'abord très pragmatique, c'est-à-dire que les féministes qui font des études, qui dirigent un peu, qui mènent la pensée là, au sujet de ce que c'est d'être l'égalité entre les femmes et les hommes, ben c'est par définition souvent des universitaires qui donc elle-même travaille contre rémunération et concilie famille et travail. Donc, elles ne connaissent pas nécessairement la réalité des mères au foyer. Parfois, elles la connaissent via l'expérience de leur mère ou de leur grand-mère, puis elles ont l'impression que cette expérience-là a été négative, ce qui est parfois vrai, puis parfois pas, parfois plus complexe aussi. Donc, puis, bien évidemment, au Québec, on a toutes, là, depuis quelques générations maintenant, reçu très profondément le message qu'être une féministe, être une femme autonome, être une femme saine, même, j'irais jusqu'à dire, c'est vraiment gagner sa vie, là, toujours dans un but d'indépendance et d'autonomie. Donc, dans mon livre, ce que j'essaie de démonter, c'est justement cette question-là d'autonomie et d'indépendance. Je commence par rappeler qu'évidemment, d'un point de vue sociologique, il n'y a pas un être humain sur Terre qui est autonome et indépendant. Là.
Oui.
On ne peut pas survivre là, tout seul. On a tous besoin de liens, d'entraide, etc. Puis, j'essaie de montrer aussi que si cette entraide-là ne vient pas, mettons, des conjoints, là, d'une union stable, ben elle va venir de d'autres sources. Donc, par exemple, une femme qui travaille contre rémunération puis qui a des enfants aussi, ben elle sera peut-être pas, entre guillemets, entretenue par sa conjointe ou son conjoint, mais elle va être, entre guillemets, entretenue par l'État via, par exemple, la prestation d'assurance parentale. Donc, d'essayer un peu de nuancer l'idée qu'avoir des enfants, là, c'est forcément quelque chose qu'on doit faire soi-même puis gagner sa vie aussi, parce que d'une façon comme une autre, il y a toujours des gens qui nous aident et il y a toujours l'État qui nous aide aussi, puis soit dit en passant, peut-être même pas tout à fait suffisamment.
Oui. Puis on constate aussi avec tout ça que même un peu comme les femmes en sciences, les femmes sont sous-représentées dans les médias ou dans les œuvres de fiction. Les modèles de mères au foyer, on dirait qu'on tend à ne plus les présenter, ou sinon, si on les présente, c'est souvent aussi des femmes qui sont très riches et puis qui ont la capacité de prendre une décision comme ça. Puis, selon vous, est-ce qu'il manque de modèles de mères au foyer?
Absolument. Je pense aussi que aujourd'hui, on pourrait plus, en fait, l'expression « mère au foyer » aussi est à moderniser. Donc, je dis pas qu'il faudrait nécessairement changer les mots, mais ce qui vient à l'esprit des gens, c'est souvent donc la mère au foyer des années 50, habillée dans des tons pastels, avec des chaussures à talons, qui va se mettre du rouge à lèvres là, à 5 heures avant que son mari rentre à la maison.
Oui.
Donc, bien évidemment, dans le contexte du Québec de 2022, ça fonctionne pas du tout. Là,
non.
C'est pas du tout ça. Puis comme vous dites, l'autre modèle qu'on a, ça va être celui de, je sais pas si les auditrices et auditeurs vont se rappeler de Desperate Housewives. Là,
oui, bien sûr.
Donc, ce modèle-là que vous évoquiez un peu, là, c'est-à-dire de femmes très riches là, qui ont des non seulement sont à la maison, mais s'occupent même pas nécessairement de leurs enfants puisqu'elles ont aussi des nounous pour s'en occuper. Donc, je pense que le modèle est vraiment à moderniser. D'abord, de nos jours, il faut vraiment parler là, de parents au foyer. Je pense que c'est devenu incontournable. Les pères aussi peuvent être à la maison. C'est un choix qui concerne vraiment le couple. Ça peut aussi être un choix qui est séparé en deux. Ça pourrait être les parents qui sont chacun, qui travaillent chacun la moitié du temps. Ça serait beaucoup plus en phase, je pense, comme idée là, de ce que c'est de travailler moins pour avoir plus de temps pour sa famille. L'autre chose aussi, c'est de démolir l'idée que quand on est à la maison, c'est qu'on a fait de nos enfants notre projet unique là, de vie, là, qu'on est constamment sur le cas de nos enfants, puis que tout ce qu'on fait, notre seule préoccupation, là, 24 sur 24, c'est de faire ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Donc, il y en a des parents comme ça, c'est une possibilité, mais la majorité des parents qui sont à la maison, selon mes recherches, ne voient pas du tout l'occupation comme ça. Là. C'est-à-dire que souvent, les mères au foyer ou les parents au foyer, maintenant, ont d'autres occupations aussi, comme je le disais tout à l'heure, peuvent faire du bénévolat. Moi, j'ai écrit mes romans pendant que j'étais à la maison. Il y en a d'autres qui font faire du travail à distance un peu à temps partiel. L'idée d'être mère à la maison, c'est pas d'être exclusivement au service de ses enfants. C'est vraiment plutôt de disposer de ce que des femmes que j'ai interrogées appellent un réservoir de temps, puis de pouvoir être plus souvent disponible plus rapidement quand il y a un besoin qui se fait sentir. Donc, si un enfant, par exemple, vit une crise, pour quelque raison que ce soit, je ne sais pas, moi, fait de l'anxiété, ce qui est quelque chose de très fréquent de nos jours, ben, le parent qui est pas tu sais, qui est pas lié à aucun travail fixe, peut plus rapidement répondre aux besoins de l'enfant, lui donner de l'espace pour être détendu, pour reprendre du courage, etc., que si les deux parents là, étaient là, pris par des emplois là, très, très demandants. Ouais. Donc, c'est plus cette idée-là. Là, tu sais, il faut rompre avec l'idée de la mère au foyer, là, justement, là, qui s'oublie complètement elle-même pour juste être au service de son mari ou de ses enfants. C'est plus ça comme idée.
Exactement. Puis, j'étais bien contente de vous parler de parents au foyer parce que j'avais une question pour savoir si c'est le thème mère au foyer était désuet. Puis en parlant de parents au foyer, est-ce qu'on a des statistiques sur les pères qui décident de prendre cette décision?
Non, en fait, à ma connaissance, il n'y en a pas vraiment. La seule chose qu'on croit constater, c'est que ça pourrait être en augmentation, mais c'est vraiment encore... C'est vraiment rare, en fait, finalement.
Okay.
Donc, ce qu'on a, c'est des pères qui prennent de plus longs congés de paternité. Et ça, c'est ma collègue, la sociologue Valérie Harvey, qui l'étudie de près. Donc, elle a un paquet de statistiques là-dessus. Mm-hmm. Mais sinon, des pères qui vraiment abandonnent leur lien à l'emploi pendant un certain temps là pour vraiment s'occuper des enfants, il y en a. Et c'est beaucoup plus valorisé, soit dit en passant. Donc, ces pères-là vont souvent être très félicités parce que ça, c'est quelque chose qui est original puis qui est nouveau, que si une mère fait le même choix.
Puis, est-ce qu'au Québec, parce qu'on sait qu'on a un réseau de CPE qui est le meilleur au monde, là, c'est ce qu'on voit.
Oui.
Est-ce que ça a un effet pervers comme de pousser les femmes à retourner travailler, même si elles ont envie d'être mères au foyer?
Ben, l'effet va être pervers seulement si, comme vous l'avez formulé, le souhait intime d'une mère, ce serait d'être à la maison, mais que, comme on a tout mis le budget, on pourrait dire, sur le réseau des CPE et sur l'assurance parentale, qui est un gros poste de dépense au Québec, dont plusieurs personnes sont fières, puis je pense à raison, là, ben là, ça peut être un problème. Parce que, justement, toutes nos politiques familiales sont résumées dans ces deux grosses pièces-là. OK? Mm-hmm. Et ces deux politiques familiales-là sont des politiques qui incitent les gens à travailler. Donc, le CPE, c'est évident, c'est conçu pour des gens qui veulent continuer à travailler tout en ayant des enfants. Et l'assurance parentale, ben, pour y avoir droit, il faut travailler.
Oui.
Donc, dans mon cas à moi, par exemple, j'avais pas travaillé avant d'avoir mes enfants. J'ai jamais eu d'assurance parentale. Donc, il fallait que j'aie déjà les reins assez solides pour assumer ce choix-là. Donc, pour une mère qui désire être à la maison puis qui veut pas vraiment, par exemple, retourner travailler entre la naissance de deux de ses enfants et qui aura donc pas droit à l'assurance parentale puis qui demande pas d'avoir accès à un CPE, ben, c'est sûr qu'il y a pas de politique comme il y en a dans d'autres provinces canadiennes, par exemple, qui vont lui donner des allocations familiales dignes de ce nom. Donc, on en a, là, certaines allocations familiales au Québec, mais c'est vraiment pas très élevé. C'est pas suffisant, en tout cas, pour assurer là, un revenu de substitution, on pourrait dire. Mm-hmm. Et à mon avis, c'est voulu comme ça.
Okay.
Le choix qu'on fait au Québec, c'est vraiment d'essayer de pousser les femmes vers le travail. Si on leur donnait une allocation plus élevée, une allocation parentale, je pense qu'il y en a beaucoup qui craindraient que ça fasse en sorte que les femmes soient moins autonomes financièrement et qu'elles restent à la maison. Donc, c'est des arguments qui se défendent vraiment d'un point de vue féministe, mais c'est des arguments là, que moi, je débat dans mon livre, là, dont j'essaie de faire voir l'autre versant aussi. Mais soit dit en passant, là, je suis pas complètement là, contre ces arguments-là. Là. Il y a quand même un aspect auquel il faut définitivement faire attention.
OK. Puis pour vous, qu'est-ce que ça devrait être un monde authentique égalitaire à ce niveau-là?
Un monde vraiment égalitaire sur le plan des soins des enfants?
Des soins des enfants, oui, bien sûr.
Mm-hmm. Bien, je pense que il faut abandonner l'idée là, d'une égalité rigide et mathématique où est-ce que les hommes font exactement les mêmes tâches que les femmes.
Oui.
D'abord, de plus en plus, les conceptions qu'on a maintenant de c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme, c'est beaucoup plus flou que ça l'était auparavant.
Exactement.
Il y a beaucoup de zones communes, de troncs communs entre les deux. De plus en plus, on va parler plutôt de parents, justement. Des fois, c'est deux mères, des fois, c'est deux pères, etc.
Oui.
Donc, déjà là, l'égalité apprend un visage nouveau à cause de ça. En même temps, je pense que traditionnellement, partout dans le monde, dans la grande majorité, presque l'entièreté des sociétés humaines, les mères ont développé une culture extrêmement riche puis extrêmement ancienne de ce que c'est de s'occuper des enfants. Puis je trouverais ça dommage, d'un point de vue presque strictement anthropologique, qu'on perde ça. Donc, l'idée que je veux transmettre ici, c'est que oui, tous les êtres humains peuvent être des bons parents puis bien s'occuper des enfants, ça fait pas l'ombre d'un doute. Mais les personnes qui se sont traditionnellement vues comme des femmes et qui sont des femmes ont développé une expertise particulière, puis c'est comme si, ça va paraître un peu bizarre, mais c'est comme si je voudrais pas non plus qu'une espèce, là, je mets des gros gants blancs et guillemets, là, mais d'appropriation culturelle du fait d'être mère au foyer sans plus. C'est-à-dire que je voudrais qu'il demeure quand même une certaine reconnaissance de la part que les personnes qui se voient comme des femmes ont apporté aux soins aux enfants et à la vie familiale, tout en rendant ça disponible et accessible pour l'ensemble de l'humanité.
Donc, ouais,
les personnes de tout genre, les hommes, les personnes non-binaires, etc.
Ouais. Madame Cloutier, c'est très intéressant. Restez avec nous, on va aller vers une chanson et puis vous retrouver par la suite.
D'accord.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Zaz qui nous invite à oublier tous nos clichés. Donc, je suis encore en compagnie de Mme Annie Cloutier, sociologue, enseignante au Cégep Garneau, auteure de l'essai « Aimer, materner, jubiler ». Donc, Mme Cloutier, c'est très intéressant. Je poursuis avec vous là-dessus. Je sais que vous avez parlé, j'ai lu quand même votre livre, de la déclaration de Carla Bruni. Vous en avez parlé, puis j'ai bien aimé la façon que vous l'avez amenée. J'aimerais la mentionner parce que, alors, ça avait fait des vagues sur les médias sociaux, puis elle déclarait qu'elle n'était pas militante féministe, mais qu'elle était bourgeoise et qu'elle aimait avoir un mari et la vie de famille. Pourquoi cette déclaration a autant choqué? Pourquoi les femmes, on n'ose pas dire réellement comment ça peut être agréable de faire un choix comme ça?
Mm-hmm. Ben, d'abord, pour remettre ça en perspective, ça fait quand même plusieurs années. Je crois que c'est en 2013 que Carla Bruni, qui était alors l'épouse de Nicolas Sarkozy, qui était le président français à cette époque-là,
oui,
avait affirmé, je crois que c'était dans Vogue, si je vois un autre magazine de cette trempe-là,
oui,
là, avait donc affirmé, comme vous venez de le dire, qu'elle n'avait pas besoin d'être une militante féministe, qu'elle préférait être bourgeoise et la vie de famille. Donc, il y avait quand même des aspects problématiques dans sa déclaration, dans le fait d'opposer, par exemple, la militance et la vie de famille. Donc, moi, personnellement, j'ai toujours allié les deux.
Mm-hmm.
Donc, les deux ne sont pas forcément opposés.
Mm-hmm.
Donc, la déclaration est un peu mal faite. Mais sur le fond, ce qui choquait tellement, c'était justement probablement cette idée-là qu'on se faisait que pour pouvoir être à la maison, d'une part, il fallait être très riche, et d'autre part, ça a été perçu aussi comme un peu une déclaration de guerre face aux féministes, parce que son mari était un homme de droite. On pensait qu'elle, forcément, Carla Bruni, prenait position à droite puis disait aux femmes « rentrez massivement à la maison ».
Mm-hmm.
Moi, je l'ai prise plutôt telle qu'elle. Je l'ai prise en reconnaissance d'une femme qui avait à peu près mon âge, puis qui réalisait tout à coup, comme beaucoup de femmes, comme d'ailleurs Mme Girard aussi en première partie d'entrevue, ça c'est quelque chose que j'entends souvent, s'attendait pas à autant aimer être à la maison puis à autant aimer voir grandir ses enfants. Donc, moi, ce que j'entendais dans le témoignage de Carla Bruni, c'était, ben, finalement, moi qui ai fait une carrière de mannequin, de chanteuse, etc.,
oui,
en ce moment, ce que j'aime, c'est être à la maison. Et ça, cette partie-là de témoignage très personnel, je pense que beaucoup de féministes n'ont pas voulu l'entendre. Il y a des féministes qui disaient, par exemple, qui disaient vraiment là, mot pour mot dans les années 70-80, il faut faire très, très attention avec le rêve de la mère au foyer. Il faut éloigner cette tentation-là des femmes.
Oui.
C'est quelque chose qu'on fait miroiter devant elles, puis il faut surtout pas qu'elles succombent à cette tentation-là. Ça a beaucoup été vu comme ça. Puis encore une fois, historiquement, on peut comprendre pourquoi il y a une grande méfiance le féministe par rapport à ça. Il y a eu toute une époque où les femmes étaient très mal protégées financièrement.
Oui.
C'est encore le cas au Québec, soit dit en passant, là, je le disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas mariée au Québec à l'heure actuelle, vous êtes très mal protégée. La loi devrait changer cette année ou l'année prochaine, mais ce n'est pas encore fait. Donc, c'est vrai que c'est important, c'est vrai qu'il y a des raisons de se méfier, mais ce qui est surtout important, c'est que les féministes ont toujours voulu éloigner les femmes de cette envie profonde d'avoir des enfants et de s'en occuper. Les féministes vont dire aux femmes, par exemple, oui, vous pouvez avoir des enfants, mais attention, mettez-les à la garderie.
Oui.
Investissez-vous pas trop dans l'amour que vous avez pour eux, parce que dans quelques années, 20 ans maximum, ils vont partir puis ils se retourneront pas, là.
Oui.
C'est un don que vous faites puis vous aurez pas de retour sur votre investissement.
Mm-hmm.
De nos jours, les enfants s'en vont puis ils font de leur propre famille puis ils vous remercieront pas, là. Tu sais, fait qu'il y a toujours cette idée-là que vous donnez puis vous recevrez rien en retour. Faites attention.
Mm-hmm.
Et encore là, c'est pas tout faux. C'est vrai qu'il faut faire attention. C'est vrai que quand on est à la maison puis qu'on donne beaucoup à la maternité, il faut être capable d'en sortir aussi puis de prévoir ça, de se dire effectivement qu'est-ce que je vais faire plus tard. Je serai pas mère au foyer toute ma vie, mes enfants vont grandir puis ça vient tellement vite, ça vient beaucoup plus vite qu'on peut l'imaginer des fois. Donc il faut se préparer à ça, il faut continuer d'être active d'une certaine façon.
Oui.
Il y a plusieurs façons de le faire. Donc c'est pas tout faux, mais de là à dire qu'il faut tout simplement nier l'élan qui nous porte à aimer nos enfants puis à vouloir être près d'eux, bien là, je pense qu'il y a une autre, disons qu'il y a une autre marge là, qu'il ne faut pas nécessairement atteindre non plus. Moi, je pense, puis c'est ce que je dis dans mon ouvrage aussi, que c'est pas pour rien qu'on a envie d'être proche de nos enfants. Il y a une question qui est tout simplement de survie humaine là-dedans, mais il y a aussi une question sociale, que des parents soient proches de leurs enfants pour les comprendre, apprendre à vraiment savoir, là, profondément qui ils sont, mm-hmm. de quoi ils ont besoin. C'est un gros plus pour l'ensemble de la société parce que ça fait des enfants qui se comprennent mieux eux-mêmes. Mm-hmm. Puis là, je veux pas dire par là que si on travaille, on comprend pas nos enfants. Là, c'est pas une opposition que je fais. Je dis juste que quand on est à la maison, ben on est dans des meilleures conditions pour que ça se passe sereinement, en tout cas dans certains cas. Mais ça veut pas dire que c'est pas possible de le faire quand on travaille, bien sûr. Mais bref, tout ça pour dire que plus on a de la disponibilité d'esprit, du temps, de l'énergie pour bien comprendre qui sont nos enfants, ben plus ça profite non seulement à nos enfants, mais aussi à nous-mêmes parce qu'on on s'épanouit dans cette relation-là et aussi à l'ensemble de la société.
Oui.
Et ça, il faut bien le comprendre aussi, que c'est pas un choix strictement personnel. Oui, on le fait souvent d'abord et avant tout pour notre bien-être, celui de notre famille, de nos enfants, mais c'est un choix qui contribue activement à la société.
Oui.
Donc, je dirais à Mme Girard, par exemple, je comprends tout à fait son déchirement, puis j'ai bien sûr pas la réponse pour elle, parce que c'est à elle d'y répondre. Mm-hmm. Être infirmière en ce moment, ça contribue de façon absolument nécessaire à la société, puis de façon évidente. Mais être à la maison aussi, d'une façon qui est moins évidente, mais qui est peut-être plus souterraine, plus à long terme, et qui a vraiment une valeur profonde qu'il faut pas nier. Mais après ça, évidemment, je peux pas prendre la décision à sa place.
Oui. Madame Cloutier, selon vous, quels seraient les gestes là, à poser pour valoriser le choix des mères de rester à la maison? Est-ce qu'il y a des gestes?
Ben, oui, d'abord et avant tout, le nommer. Donc, nommer que ça existe, que c'est un choix qui est possible. Puis ensuite, joindre le geste à la parole. Donc, un peu mieux protéger les mères au foyer, ce que va faire la loi là, dont je parlais dans les prochains mois, mais aussi de plus nommer, par exemple, dans des campagnes de publicité, par exemple, d'assurance-emploi ou des trucs comme ça, là, de retour au travail, de parler à ces femmes-là à ces êtres humains-là, là, les hommes aussi. Vous êtes restés à la maison pendant quelle période de temps? Vous désirez vous recycler? Vous désirez faire un certificat à l'université pour mettre à jour vos compétences? Bien, on a un programme qui est fait pour vous. On reconnaît que vous avez été à la maison pendant quelques années. On reconnaît que c'est un parcours qui est valable et que vous devriez pouvoir vous réinsérer en emploi d'une façon quand même assez souple et sans douleur, alors qu'aujourd'hui, on a encore le fameux problème du, entre guillemets, « trou dans le CV ». Ça, je pense que ça serait une des choses là, vraiment les plus importantes à faire, de ne plus parler dans ces termes-là, de pouvoir dire en entrevue, j'ai été à la maison pendant quelques années, ça m'a permis de développer plusieurs compétences de gestion de conflits, d'organisation de ménage, de budget, de peu importe. Je fais un retour au travail maintenant, mm-hmm. je suis telle ou telle formation, mais bref, de pouvoir nommer cette réalité-là comme un parcours de vie qui est tout aussi valable qu'un autre.
OK. Puis dans cette même ordre d'idée, les mesures, on entend toujours parler des mesures conciliation, travail, famille, on n'arrête pas d'en mm-hmm. entendre. Est-ce que ce sont des vœux pieux ou qu'est-ce que vous en pensez?
Non, c'est-à-dire que la conciliation famille-travail au Québec est extrêmement développée. Évidemment, ça pourrait toujours être mieux. Là. Il manque encore cruellement de place en CPE. Donc, moi, personnellement, ce que je voudrais, c'est le meilleur des deux mondes. Là. C'est-à-dire que je ne demande pas qu'on finance moins le CPE, pas du tout.
Oui.
Donc, pour ce qui est de la conciliation, on a quand même le vent dans les voiles au Québec. Ce qu'on ne soutient pas, c'est la non-conciliation.
Mm-hmm.
C'est le choix de la personne qui veut faire seulement de la maternité, seulement l'aspect famille. Ça, c'est presque pas soutenu au Québec, malheureusement.
Mm-hmm. OK. Parfait. Donc, vous avez été 10 ans à la maison. Est-ce que vous referiez mm-hmm. le même choix? Alors, si on vous remet actuellement en 2022?
Oui, absolument, de tout cœur. C'est les plus belles années de ma vie. Donc, je suis encore vraiment super épanouie. Maintenant que je suis enseignante à temps plein, j'adore mon métier, je suis très heureuse. Mais les années que j'ai été à la maison avec mes enfants, puis la vie de communauté. Moi, j'ai eu la chance d'être mère au foyer dans un quartier où il y en avait d'autres
oui.
et où on vivait beaucoup de choses en communauté. Ça a été vraiment les plus belles années de ma vie. Puis je le dis avec une certaine nostalgie, mais sans dépit. Là, je suis très curieuse de savoir ce que la vie va m'apporter par la suite. Mais ces années-là, pour moi, c'est irremplaçable.
Mm-hmm. Vous avez parlé aussi des gestes qu'on devrait poser pour motiver les gens, les mères à rester à la maison. Donc, quels seraient les gestes aussi pour combattre aussi ce sentiment qu'on a souvent de ne pas contribuer à la société? Est-ce qu'il y aurait d'autres gestes à faire?
Il y aurait plusieurs gestes. En fait, c'est que ce sentiment-là émerge d'une représentation sociale qui oppose, au fond, le travail productif, ce qu'on perçoit comme du travail productif qui contribue à la société, et le travail reproductif, qui est le travail des soins. Mm-hmm. Donc, les gestes, c'est-à-dire qu'il y aurait un travail vraiment sur l'ensemble de la société pour remettre à l'honneur le fait de prendre soin de ses enfants, qu'on soit à la maison ou pas. Puis dans les gestes plus concrets, si vous avez des gens autour de vous qui ont cette occupation-là, qui font ce travail-là, ben c'est justement de l'apprécier, de le voir, de le reconnaître, de le nommer, de dire des choses comme « Ah, wow, c'est une façon intéressante ou originale de contribuer à la société.
Oui. »
Donc, de dire à ces personnes-là qu'on voit ce qu'elles font et qu'elles font œuvre utile, elles aussi, au même titre que les personnes qui travaillent dans un travail.
Merci. Rémunéré. Merci, Mme Cloutier. C'est vraiment fort agréable. Donc, un plaisir de vous avoir eu à l'antenne. Je remercie mes deux invités, Mme Émilie Girard, infirmière et enseignante, et Annie Cloutier, sociologue de la famille et enseignante au Cégep Gardeau. Ainsi s'achève notre émission. Merci à toute l'équipe, Nicolas Sartam à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien, chef de la diffusion technique. Ici Marjorie Terdor, qui vous dit à la semaine prochaine.